Chapitre 4. On ne trouvait que des biottes au débit de hamburger de Central City. Deux Lincoln se chargeaient de la gestion, quatre Garcia servaient les clients, deux Einstein faisaient la cuisine et une Tiasso maintenait les lieux dans un état de propreté irréprochable. L'établissement rapportait des sommes coquettes à son propriétaire qui n'avait aucun salaire à régler. Le jeudi soir, quand elle allait travailler comme bénévole au centre hospitalier, Alice s'arrêtait en chemin pour manger dans ce restaurant. Le jour où la décision de Mishkin fut rendue publique, Éponine vint la rejoindre sans son brassard.
« Je m'étonne de jamais t'avoir vu à l'hôpital, »
dit Éponine en mordant dans une frite.
« Que vas-tu faire là-bas ? »
« Tenir compagnie à des enfants malades. » Quatre ou cinq sont dans un état critique, et il y a même un petit garçon contaminé par le RV41. Ils aiment recevoir des visites. Les tiassos sont efficaces mais manquent de chaleur humaine.
Éponine mâcha une bouchée de hamburger.
Je peux te demander pourquoi tu fais ça? Tu es jeune et belle, en bonne santé. Tu pourrais avoir des occupations plus agréables.
L'altruisme de ma mère doit être contagieux. J'ai l'impression de faire œuvre utile en tenant compagnie à ses enfants.
Elle hésita avant d'ajouter.
Et je ne suis pas à mon aise en société. J'ai physiquement 19 ou 20 ans, mais je manque d'expérience. Une de mes amies m'a confié que les garçons m'assimilent à une extraterrestre.
Éponine sourit.
Je préférais être une E.T. plutôt qu'une femme séropositive,
pensa-t-elle.
Mais si les garçons t'évitent, c'est qu'ils sont d'une stupidité sans borne.
Elles finirent leur repas, puis allèrent dans le parc et s'arrêtèrent devant le monument inauguré lors des cérémonies de la première commémoration de la colonisation. C'était un cylindre surmonté à hauteur des yeux par une sphère transparente de 50 cm de diamètre. En son centre exact, un point lumineux marquait l'emplacement du soleil. Le plan horizontal était l'écliptique où évoluaient la Terre et les autres planètes, et des têtes d'épingles brillantes indiquaient les positions relatives de toutes les étoiles situées dans un rayon de 20 années-lumière. Le trait luminescent qui reliait le Soleil à Sirius matérialisait le parcours des Wakefield jusqu'au point nodal. Un autre ray qui partait du système solaire indiquait la trajectoire suivie par Rama 3 depuis que les colons y avaient embarqué. Le vaisseau représenté par un gros point rouge clignotant avait parcouru un tiers du chemin séparant le Soleil de Tau Ceti.
« N'est-ce pas ton père qui a eu l'idée de ce monument ?»
demanda Éponine.
« C'est exact. Il ne manque pas d'imagination, dès l'instant où il est question de science et d'électronique. »
Que nous n'allions pas vers Sirius et le point nodal ne vous inquiète pas?
Non. C'est un sujet que nous abordons rarement. Mon père m'a dit un jour qu'aucun d'entre nous ne pouvait comprendre les desseins des extraterrestres.
Éponine tourna la tête de tous côtés.
La plupart des passants ne prennent même pas le temps de voir quelle est notre position. Moi, je la vérifie au moins une fois par semaine, depuis que je sais que mes jours sont comptés.
Après un long silence, elle prit Ali par l'épaule.
As-tu interrogé l'aigle au sujet de la mort?
Non, mais j'avais moins de 4 ans quand nous avons quitté le point nodal. Je devais croire que la vie était éternelle.
Enfant, j'avais des pensées d'enfant,
cita Éponine avant de rire.
De quoi parliez-vous donc?
Je ne m'en souviens plus. Patrick dit qu'il aimait nous regarder jouer.
Vraiment? D'après les descriptions qu'en fait ta mère, je l'aurais cru bien trop sérieux pour s'intéresser à de tels passe-temps.
J'ai conservé de lui un souvenir très net, mais je ne me rappelle plus le timbre de sa voix.
T'arrive-t-il de le revoir en rêve?
Ah oui, souvent. Une fois, il était perché au sommet d'un grand arbre et m'observait.
Éponine rit à nouveau, puis regarda sa montre.
Seigneur, je vais arriver en retard à mon rendez-vous. Quand dois-tu être à l'hôpital?
À 19h.
Alors nous aurions intérêt à ne pas lambiner.
Quand Éponine entra dans le cabinet du docteur Turner pour son examen bi-hebdomadaire, la Thiasso de service la conduisit directement au laboratoire pour obtenir des échantillons de sang et d'urine, puis la raccompagna dans la salle d'attente en précisant que le docteur avait pris du retard. Un noir souriant était arrivé avant elle.
« Salut !»
dit-il quand leurs regards se croisèrent.
« Amadou Diaba, pharmacien de mon état. »
Éponine se présenta à son tour, certaine de l'avoir déjà rencontré.
« Belle journée, pas vrai ? »
fit-il après un court silence.
« Je suis sacrément heureux d'être débarrassé de ce maudit brassard. »
Elle se rappela l'avoir vu lors de réunions de malades du RV41. Il avait été contaminé par une transfusion sanguine.
« Combien sommes-nous ? »
se demanda-t-elle.
« 93 ou 94, dont 5 victimes de transfusion. »
« Et comme les bonnes nouvelles vont toujours par deux, » ajoutait Amadou, « on a annoncé la découverte des faucheux seulement quelques heures plus tard. »
Éponine ouvrit de grands yeux.
« De quoi parlez-vous ? »
« Vous n'êtes pas au courant ?»
Il hésita, puis se lança dans des explications.
L'équipe d'exploration du second habitat élargissait le tunnel d'entrée quand 6 étranges créatures sont sorties en rampant du passage. Les faucheux, comme les appellent les journalistes, sont originaires de l'autre monde clos. Ils ressemblent à des balles de golf velues, juchées sur 6 grandes pattes et se déplaçant très vite. Ils ont grimpé sur les hommes, les biotes et le matériel pendant près d'une heure, puis sont repartis par où ils étaient venus.
Elle allait demander des précisions quand Turner sortit de son bureau.
« Monsieur Diaba, mademoiselle Éponine, j'ai un rapport à communiquer à chacun de vous. Qui veut passer le premier ?»« Monsieur Diaba est arrivé avant moi, » fit-elle remarquer.
« Les femmes et les enfants d'abord, même dans le Nouvel Éden, »
rétorqua Amadou. Éponine entra dans le cabinet du médecin.
« N'y a pas à s'inquiéter pour l'instant, »
lui déclara Turner lorsqu'ils furent seuls.
« Le virus est toujours présent dans votre organisme, mais il n'a pas encore attaqué les muscles cardiaques. J'en ignore la cause, mais sa virulence varie selon les patients. » « Comment se fait-il que vous vous intéressiez tant à mon cas, et si peu à mes regards langoureux ?»
songea Éponine.
« Nous allons continuer de vous administrer le traitement standard. Il n'entraîne aucun effet secondaire sérieux et il est peut-être à l'origine de l'inactivité du RV41. Comment vous sentez-vous autrement ? »
Ils regagnèrent la salle d'attente. Le médecin lui rappelait quels symptômes signaleraient que le virus avait atteint un nouveau stade de développement quand la porte s'ouvrit sur Ali Wakefield. Le docteur Turner réagit à retardement.
« Puis-je quelque chose pour vous, mademoiselle ?» « Je souhaitais poser une question à Éponine, mais si je vous dérange, je peux l'attendre à l'extérieur. »
Turner secoua la tête, puis s'embrouilla dans les commentaires qu'il adressa à sa patiente. Éponine en fut décontenancée, mais lorsqu'elles sortirent, elle vit Turner suivre Ali des yeux.
« J'attends depuis 3 ans de le voir réagir ainsi, » se dit-elle. « J'avais fini par croire cela impossible, et dire qu'elle ne l'a même pas remarqué. »
La journée avait été longue, et le trajet de la gare à son appartement d'Aconé épuisant. La joie éprouvée après avoir retiré son brassard avait cédé la place à un profond abattement. Éponine était en outre confrontée à la jalousie que lui inspirait désormais Ali Wakefield. Elle s'arrêta devant la porte de son logement. Une large bande rouge collée en travers du panneau signalait qu'un porteur du RV41 vivait en ce lieu. Elle remercia en pensée le juge Mishkin et arracha le bout de plastique. Une fois à l'intérieur, elle se laissa choir dans un fauteuil et prit une cigarette.
« Je ne fume jamais en présence de mes élèves, pour ne pas leur donner le mauvais exemple. Je ne m'accorde ce plaisir qu'ici, chez moi, quand je suis seule. »
Elle sortait rarement après la tombée de la nuit. Les habitants d'Aconé lui avaient fait clairement comprendre qu'ils ne voulaient pas d'elle. Deux délégations étaient venues l'inciter à déménager et elle avait reçu plusieurs lettres de menaces, mais elle refusait de quitter ce village. Depuis que Kimberly Henderson vivait ailleurs, Éponine disposait de plus d'espace vital qu'on en attribuait à une personne seule. Elle savait en outre qu'une séropositive ne bénéficierait nulle part d'un accueil chaleureux. Elle s'était endormie dans le fauteuil et rêvait de prairies fleuries lorsqu'on frappa. Elle regarda sa montre. 23 heures. Elle alla ouvrir la porte sur Kimberly qui entra rapidement.
« Oh, Ep, je suis si contente de te voir. Il faut absolument que je parle à quelqu'un, quelqu'un de confiance. »
Kimberly alluma une cigarette d'un geste nerveux, puis se lança dans un long monologue.
« Oui, oui, je sais. Tu as raison, je plane, mais j'avais tellement besoin de réconfort. Ce bon vieux Kokomo, il est bon de retrouver un peu d'assurance, même si elle est artificielle. Ce connard a été trop loin cette fois. Il m'a poussé à bout. Il croyait que je supporterais tout sans broncher. D'accord, j'ai fermé les yeux, et j'ai même accepté d'autres filles dans notre pieu. Mais je restais la Ichiban, la numéro un. Enfin, je me l'imaginais. »
Elle écrasa son mégot et se tordit les mains au bord des larmes.
« Alors, quand il m'a dit de déménager, je lui ai demandé « Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ?»« Tu caltes. » Qu'il a répété. « Boucle tes valises, je t'ai réservé un appart derrière le Xanadu. » Je lui ai rétorqué que c'était là que logeaient les putes. Et ce salopard s'est contenté de sourire. Je me suis mise en rogne. « Tu ne peux pas me faire ça !» J'ai voulu le frapper, mais il a saisi mon poignet et m'a giflé. « Tu fais ce que je t'ordonne. N'y compte pas, espèce d'ordure. » J'ai saisi un vase et je l'ai lancé. Il s'est brisé sur une table et deux mecs m'ont sauté dessus pour immobiliser mes bras dans mon dos. « Emmenez-la !» qui leur a dit. Ils m'ont conduite dans une piole assez chouette avec une boîte de joints de Kokomo dans la penderie. J'en ai fumé un tas et je me suis mise à planer. C'est pas si mal que ça, après tout, que je me disais. Au moins, je n'ai plus à satisfaire les désirs pervers de cette ordure. Je suis allé au casino pour me changer les idées, et c'est là que je les ai vus. Ils s'affichaient en public devant tout le monde. Je l'ai traité de tous les noms, je l'ai même griffé. Et j'ai reçu un bon coup sur le crâne. J'étais par terre quand ce salaud s'est penché vers moi pour me dire à l'oreille « Si tu remets ça, tu finiras comme Marcello Dani. »
Kimberly enfouit son visage entre ses paumes pour sangloter.
« Oh, Ep, je me sens si vulnérable. Je ne sais pas à qui m'adresser. Que puis-je faire ?»
Sans laisser à son ancienne amie le temps de répondre, elle ajouta
« D'accord, je sais. Je pourrais retourner travailler à l'hosto. Ils cherchent des infirmières expérimentées. Mais où est le Lincoln ?»
Éponine sourit et désigna le placard.
« Super !»
fit Kimberly avant de rire.
« Voilà un mec idéal. Il nettoie la salle de bain, fait la vaisselle, prépare la bouffe et ensuite, hop, on l'oublie. Il est seulement dommage que leur paf ne serve à rien. Ils en ont un, d'accord, mais il reste mou comme une chic. Un soir où je me sentais seul, j'ai voulu me faire baiser par un de ces robots. Mais il a été aussi nul que certains mecs dont je pourrais citer les noms. »
Elle se leva, fit les 100 pas et alluma une cigarette.
« Je me demande pourquoi je suis passé te voir. Je pensais que on était copines autrefois. Je déprime. C'est affreux. Je ne supporte pas cette situation. Je ne sais pas ce que j'espérais, mais tu as ta vie. Je ferais mieux de te laisser. »
Elle traversa la pièce pour étreindre rapidement Éponine.
« Te bile pas pour moi, ma vieille. Ça va aller. »
Ce fut seulement quand la porte se referma derrière Kimberly qu'Éponine prit conscience de ne pas avoir dit un seul mot en présence de son ex-amie et qu'elle fut certaine de ne jamais la revoir.